Salut, moi c'est Niki.
Moi c'est Bi.
Bienvenue dans le podcast Madame Attrape ton cœur.
Une conversation à cœur ouvert entre deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne
qui ont quitté leur vie parisienne pour s'installer à Abidjan.
Dans ce podcast, on vous parlera entre autres d'identité, de féminisme, de carrière professionnelle,
d'expatriation, de santé mentale, d'art et de culture.
À quoi bah ? Hello Niki, comment tu vas ?
Ça va, Bi, et toi ?
Ça va, ça va.
Ça va, ça va.
Bah, on va dire ça va physiquement, mais mentalement, c'est pas ça.
Je sais pas, à chaque fois qu'on on enregistre des épisodes, il y a des trucs de ouf qui se passent dans l'actualité. C'est incroyable, c'est incroyable.
Bah, c'est pas lié en fait à nous quand on enregistre, c'est qu'en fait, dans l'actualité, il y a beaucoup de choses qui se passent et on est peut-être plus sensible à ce qui se passe que d'autres, ou bien quand on arrive au moment d'enregistrer, c'est le moment, tu sais, on est censé vider notre sac, et là, bah, tu te dis, bah, t'as toute cette frustration que t'as envie de déballer, quoi.
Grave. Bon, juste pour replacer les choses dans le contexte, on est le 31 mai, quelques jours après la mort de George Floyd, et quelques jours après la proposition de loi pour qu'on ne filme pas les policiers pendant les arrestations en France. Bon, je peux vous dire qu'on est monté à bloc, là. En termes de frustration, échelle au max.
C'est même pas de la frustration, moi je dirais c'est de la rage.
Ouais, non mais oui. Tout. Pour moi, quand t'es noire, t'as deux réactions. Soit tu exploses, soit tu dis bon ok, tu prends sur toi et tu avances dans la vie. Et tu fais les choses, tu vois.
Bah moi je dis juste, on prend tout le temps sur nous. Et donc t'as des phases où bah ça explose.
Ouais. Et là je pense qu'on est en plein dedans. Voilà pour...
C'est ta nouvelle.
Les nouvelles. Sur mes nouvelles. Mais la chose positive que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens de ne plus laisser les choses passer, tu vois. Chose que nos parents n'avaient pas avant. Maintenant, on a les réseaux sociaux, qui est une arme très puissante. Et dès qu'il y a un truc, il ne faut pas laisser passer, quoi.
Ouais, totalement.
Donc, voilà.
Bah, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager un texte que j'ai écrit. J'en ai écrit beaucoup cette semaine parce que ça n'allait pas. Donc, au début, je voulais dire que je voulais partager un goumin. Mais en fait, c'est pas juste un goumin parce que c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis très jeune.
Ouais.
On va dire que c'est un peu comme une meilleure amie, une meilleure ennemie que je trimballe et qui prend de la maturité et qui s'affirme aussi. Et je pense que, bah, comme je le dis, en fait, c'est un truc qui est partagé par beaucoup d'hommes et de femmes, notamment noirs, dans ce monde. En fait, c'est une rage qui me dévore de l'intérieur. Et c'est James Baldwin, d'ailleurs. C'est l'auteur afro-américain qui en parle très bien, avec sa citation « Être un noir dans ce pays » et être relativement conscient, c'est avoir la rage au ventre la plupart du temps.
Ah, ça.
Et ça, c'est ce que j'ai. Donc, dans mon texte, c'est « Cette rage, ma mère ennemie, je la mets parfois sous sourdine, et j'oublie ce qu'elle peut déclencher en moi quand elle est alimentée par trop d'informations. » C'est ce que j'ai fait récemment. En effet, les réseaux sociaux, qui sont à la fois un outil merveilleux de découverte, d'échange et de partage, sont également source de confusion, de colère, de choc émotionnel, pouvant avoir un impact sur la santé mentale. La journée du 26 mai, j'ai découvert que les réseaux sociaux pouvaient devenir mon meilleur ennemi, à cause de plusieurs nouvelles. Donc en fait, pour comprendre ces nouvelles, il faut imaginer que moi, Bi, je suis une vitre, et chaque nouvelle, en fait, c'est un choc sur la vitre. Ça a commencé avec Camélia Jordana, qui a parlé de violences policières sur le plateau d'où on n'est pas couché, et la polémique qui s'en est suivie sur les réseaux sociaux, même dans les médias. Donc en recevant cette nouvelle, moi, ma vitre, elle a tremblé, mais elle est restée intacte. Ensuite, Éric Zemmour et son discours haineux sur l'esclavage sur un plateau TV. Ma vitre, elle a tremblé. Un peu plus, mais elle est restée intacte. Et je me suis réconfortée en disant « Bon, Mago, faut faire un tour sur le site du CSA, tu le dénonces et tu passes à autre chose. » Ensuite, j'ai vu la vidéo de cette nana blanche là, qui promène son chien à Central Park et qui se sent harcelée, acculée, victime de harcèlement parce qu'un homme noir lui dit de mettre son chien en laisse. Et là, ma vitre, elle a tremblé. Puis, elle est restée intacte. Ensuite, j'ai fait un tour sur le compte Instagram de Assa Traoré. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, cette femme qui livre toujours ce combat sans fin contre la justice et la police française pour obtenir justice pour son frère Adama. Et là, j'ai vu trop de nouvelles de cas récents, de violences et bavures policières dont je n'étais pas au courant. Et là, ma vitre s'est fissurée. Et j'ai revu toutes ces images, tous ces articles de gens qui sont morts ou qui ont été blessés, notamment Adama, Théo. Et ça m'a fait penser aussi à tous ces films que j'ai vus, Banlieusards, Misérables, et des témoignages en fait, des victimes, que ce soit sur des podcasts ou dans les médias. Et enfin, ce qui, la dernière nouvelle, c'était la vidéo de la mort de George Floyd, donc tué par ce policier à Minneapolis. Et là, ma vitre, qui était fissurée, elle a explosé. Et les morceaux sont tombés doucement. Et toutes les images, tous les noms et toutes les émotions ressenties par le passé, elles sont revenues. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai passé ma journée à absorber des nouvelles sur les réseaux sociaux, sans savoir en fait ce que je pouvais réellement encaisser sans exploser. Et là, j'ai sombré. J'ai pleuré, j'ai pas dormi. Et j'étais dans une rage folle. J'étais tellement anxieuse que j'avais plus d'énergie. Et il y a cette question en fait qui me revient toujours. C'est une sorte de mélodie. Moi, j'appelle ça la mélodie de l'horreur. Et c'est les hommes et les femmes noires sont-ils condamnés à survivre ? Parce que pour moi, en fait, la survie, ça implique de faire des efforts supplémentaires au quotidien, d'être constamment sous tension et d'être dans un monde hostile. Et donc, c'est cette impression que moi, j'ai. J'ai l'impression que les hommes et les femmes noires ne vivent pas. Ils survivent face à la pauvreté, le racisme, les discriminations, les violences physiques et psychologiques. Et en fait, moi, ce que je montrais juste par cette histoire, c'est l'impact en fait, que ça a sur notre santé mentale. Et moi, pour remonter la pente, en fait, j'ai choisi le silence. Je me suis retirée des réseaux sociaux pendant 2 jours. J'ai écouté de la musique, j'ai prié, j'ai beaucoup écrit. Donc, il y a ce texte que je partage. Et j'ai refusé de participer à des discussions qui risquaient de me faire rechuter dans cette phase, tant que cette question tournerait en boucle dans ma tête. Après, je me suis posé des questions. Je me suis posé 4 questions. Dans quel état émotionnel se trouvent les gens en face de leur écran quand je partage du contenu sur les réseaux sociaux ? Suis-je la seule à ressentir cette détresse émotionnelle après autant de nouvelles ? Comment font les activistes, les militants et les journalistes pour être sans arrêt au combat ? Et enfin, ai-je le droit de prendre une pause quand mes frères et sœurs, mes parents, mes voisins, mes amis, mes compatriotes, mes semblables humains, voire les futures générations, survivent au lieu de vivre ? Et donc j'ai fini par trouver de l'apaisement dans la lecture, notamment un article de Rokhaya Diallo qui parle sur le pouvoir des images et du traumatisme que ça déclenche. Et ensuite dans les discussions et le discours de mon entourage, de certaines personnalités et influenceurs dans les médias en fait. Et bah, ça c'est mon histoire que je voulais partager aujourd'hui.
Waouh. Bah écoute, déjà bravo pour le texte, il est très beau. Et ouais, tu partages toutes les frustrations qu'on peut rencontrer, tu vois. Après, c'est comme on le disait, t'as 2 réactions, soit tu es silencieuse, soit tu es vocale. Et c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut être militant.
Ah
tu
non.
Vois. Tu dois te préserver, t'auto-préserver, c'est très essentiel. Parce que de toute façon, si tout ça, ça t'atteint et que tu es détruite à la fin, bah, tu peux rien faire.
Totalement.
Tu ne peux rien faire. Donc pour moi, c'est reculer pour mieux sauter en fait. Si tu as besoin de couper des réseaux sociaux, il faut. Il faut se préserver. Il faut à un moment donné dire stop. Je fais ce qu'il y a de mieux pour moi. Sachant que te connaissant, tu vas toujours agir, tu vois. Tu agiras à ta manière. Mais si tu n'es pas dans l'état émotionnel ni mental pour le faire, ça ne sert à rien.
Et c'est dur en fait. C'est lourd.
Ah ouais, je te comprends totalement. Ouais. Je comprends totalement. Moi, j'avais fait une pause depuis l'affaire de Théo, en fait. Théo, je me souviens, quand j'ai vu la nouvelle, je pense que c'était la première fois que je pleurais parce que j'étais noire, en fait. Pas parce que c'est mauvais, non, mais je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas qu'être noire, c'était... comme t'as dit, c'est un fardeau, en fait. C'est comme si c'était une tare. C'est la première fois que j'ai pleuré parce que j'étais noire. Et je me suis dit stop. J'arrête les frais, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que bon, voilà comment je réagis face à certaines situations. Donc, c'est-à-dire que je sais déjà que je ne peux pas être militante. Ça, je le sais. Je ne peux pas, je n'ai pas la carrière pour, tu vois. Je n'ai pas le cœur pour encaisser tous ces chocs-là. Et la deuxième fois que j'ai pleuré parce que j'étais noire, c'est à cause de George Floyd.
Ouais.
Parce que malheureusement, j'ai regardé la vidéo.
Ouais, moi aussi.
J'ai regardé pendant les 9 minutes, j'ai regardé la vidéo et j'ai fait ouais. Et j'ai regardé la vidéo du petit qui pleurait, qui chantait parce que... il voulait juste vivre, tu vois. La vidéo qui circule en ce moment du jeune chanteur de gospel qui dit qu'il veut juste vivre. Et je me suis dit, à petite dose. C'est très, très important de s'auto-préserver dans ces moments-là. Pareil, j'ai commencé à lire le livre de... J'ai oublié le titre, l'auteur, mais c'est « Why I No Longer Speak to White People About Race ». en gros, marquer ce ras-le-bord, genre stop, tu vois, à un moment donné, stop. Je vais agir, je me connais, on se connaît, tu vois.
Ouais, ouais.
Tu sais qu'en ce moment, c'est trop chaud, c'est trop bouillant, c'est trop d'informations. Tu t'auto-préserves, c'est très important. Et tu vas agir.
Ouais, après, moi, ça a soulevé aussi une discussion avec un ami. C'est qu'on se disait, bah, on aimerait avoir des enfants, tu vois, plus tard. Ouais. Et est-ce que tu as envie de donner vie à des enfants qui vont vivre avec cette rage et cette peur au ventre au quotidien, à qui tu vas apprendre à faire attention, à la police, à se méfier ou à craindre, et aussi à qui tu vas leur dire attention à ton comportement, tu peux effrayer les autres.
Moi, je pense que ça sera dilué. Moi, je pense pas que la génération suivante vivra les mêmes choses que nous. Nos parents, c'était un autre monde. Quand ma mère me raconte ce qu'elle a vécu, c'était en mode survie, tu fais profil bas. La dernière fois, on en parlait, parce que justement, j'ai dit ici, pardonne-moi, Alexia. Ma petite soeur a craqué face à George Floyd. Mmh. Elle a appelé ma mère, elle était en larmes, elle a craqué. Et elle comprenait pas, tu vois. Je pense que c'était la première fois qu'elle venait, elle était face à cette réalité-là. Elle me dit, mais ça aurait pu être moi, en fait.
Bah ouais.
Ça aurait pu être moi. Et ma mère, elle lui a dit, bah écoute, nous, à notre époque, on était obligés de faire profil bas. Aujourd'hui, vous avez les armes. Vous avez fait les mêmes écoles. Vous parlez le même langage. Vous êtes au même niveau. Donc maintenant, c'est à vous de ne plus rien laisser passer. Et je pense que la génération d'après fera encore mieux, tu vois. Donc je pense pas... On faudrait toujours mettre des gens en garde. On va toujours mettre la jeune génération en garde. Bon, voilà, t'as un contrôle policier, ne résiste pas, fais ce qu'ils te disent et tout, etc. Même si ton ego est bafoué, même si ta fierté est bafouée, c'est juste un moment désagréable que tu vas passer, tu passes à autre chose. Mais au moins, tu préserves ta vie. Mmh. C'est ça qu'il faut se dire. Et je trouve ça tellement dommage, tellement, tellement dommage qu'aujourd'hui, il faille se méfier de ceux qui sont censés nous protéger. Tu vois ?
Ça, c'est dur.
Ça, c'est vraiment dur. Parce que, bon, mais bon, c'est la vie. Et en tant que noir, malheureusement, ce sont des réalités qu'on doit intégrer. Donc voilà, donc je pense pas que la génération future fera mieux.
Ah, j'espère.
Ah non, non, il faut de l'espoir. Que ce soit noir ou blanc, je sais qu'ils feront mieux. Parce qu'aujourd'hui, on a les armes pour dénoncer, on a les armes pour éduquer les personnes. Aujourd'hui, franchement, l'ignorance, c'est un choix. Avec tout ce qu'on a comme accès à l'information, sauf si vraiment vous êtes dans des conditions extrêmes, mais l'ignorance est un choix.
Bah, c'était les nouvelles du jour.
Eh ben, dis donc, sacré Noël.
Ah, c'est la vie.
Ouais.
Bah sinon, aujourd'hui, on est de retour. Toujours dans cet esprit de recherche identitaire.
Toujours, ouais.
Sauf que là, on va dans un autre domaine, c'est le travail. Là où on passe énormément de temps au quotidien. On a passé plus de 20 ans sur les bancs de l'école à être formé.
Ouais, 20 ans. Ah ouais, j'avoue.
Bah si tu commences à la maternelle, t'as 3 ans, tu vas à l'école, quoi.
Ah, c'est chaud. Non, ah, bon, bref.
On a passé plus de 20 ans à être formé à comment intégrer le monde professionnel.
Attends, en plus, si tu retables les classes, ça veut dire que c'est plus, c'est même pas 20 ans.
C'est pour ça que j'ai dit 20 ans, parce que moi, j'ai passé plus, mais bon.
Vas-y.
Et donc, voilà, et on nous dit nous préparer à ce monde du travail, qui d'ailleurs, si tu regardes son étymologie en latin et en grec... C'est pas positif.
Ouais, c'est dire souffrance.
Voilà. Et finalement, on n'est pas si bien préparé que ça. Hein.
Non.
Donc nous, on veut revenir vraiment sur ça en parlant de notre parcours. On a fait des études différentes.
Ouais.
On occupe des postes différents dans des entreprises différentes. Mais,
C'est toujours le patriarcat.
Voilà. C'est vrai. Et on vit quand même les mêmes réalités.
Exactement.
Donc, je pense qu'on peut commencer déjà à parler un peu plus de nos études et ce choix de carrière qu'on a fait.
Ouais.
J'avoue que toi, tu as un parcours d'études assez intéressant. Donc, est-ce que tu veux expliquer pourquoi ces choix plutôt et comment t'en arrivais là ?
Je vais commencer par... déjà, il faut savoir que, comme j'ai dit, j'ai commencé en France, puis je suis rentrée au Cameroun, puis je suis revenue en France. En France, bon, système francophone, donc un maternel classique. Quand je suis allée au Cameroun, on est allé dans un système anglo-saxon. Donc, ça veut dire que je faisais tous mes cours en anglais jusqu'à ce que je passe en première. Après, retour en France, je bascule dans un système francophone. Donc, en fait, c'est trop bizarre parce qu'à ce moment-là, en fait, on aurait dit que j'ai... C'est comme si mon cerveau s'est inversé. Je sais pas comment vous expliquer. Mais on va prendre l'exemple de la division. Ouais. La division dans le système anglo-saxon, c'est d'une manière. Et les francophones, c'est à l'envers, en fait.
Ouais.
Donc, en fait, c'est cette image-là. J'ai dû tout réapprendre. Absolument tout.
Bah, tu sais, on dit souvent que la langue, en fait, ça te donne un système de pensée et une manière de véhiculer ta pensée.
Grave. Ça n'avait rien à voir. Et je me souviens, surtout en français, j'avais de sales notes parce que, bon, je sais pas si c'est moi ou c'est ma personnalité ou c'est le système anglo-saxon. On va droit au but, tu vois. On va pas mettre des papiers cadeaux autour du truc. Non, non, non. C'est pourquoi ça ? Si. Point barre. En français, on va dire oui. Introduction, corps du texte, conclusion. Voilà.
On fait de la rhétorique ?
Non, mais c'est du coup, je sais qu'en français, j'avais de sales notes parce que bon, je savais pas genre broder, je savais pas écrire de longs textes. Et j'ai dû réapprendre tout, absolument tout. J'ai eu mon bac, bon voilà, j'ai continué les études normalement. Mais surtout, enfin, un truc qui m'a marqué, quand je suis revenue en France, je suis revenue, j'avais 15 ans. Et je me souviens que mon oncle, la première chose qu'il m'a dit, c'est il faut que tu bosses dur. Il faut que tu bosses très dur, il faut que tu réussisses tes études, il faut que tu aies ton bac. Et n'oublie pas que tu es noire et tu es une femme. Je savais que j'étais noire, j'avais 15 ans, je savais que j'étais noire. Mais pourquoi est-ce qu'il me le disait, tu vois, c'est toutes les questions qui trottaient dans ma tête. Je me souviens, quand il m'a dit cette phrase, je sentais que c'était une mise en garde, en fait. Et du coup, j'ai commencé à appréhender, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi est-ce qu'il me fait prendre conscience que je suis noire? C'est quoi le problème, tu vois? Et encore plus que je suis une femme, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où j'ai commencé à remarquer que tout mon entourage, à chaque fois, on va te rappeler que tu es noire et que tu es une femme. Et qu'il faudra que tu travailles 10 fois plus que tes camarades blancs. Mmh. De mes 15 ans jusqu'à aujourd'hui, on m'a répété ça. C'était c'était ça tes armes, en fait, pour affronter la vie en France. Et là, comme j'ai dit, c'est là où j'ai commencé à remarquer. Même ma mère, elle me dit, il faut que tu te rendes indispensable au travail. Parce que bon, pour elle, logiquement, j'allais finir en France, voilà, j'allais évoluer dans le milieu français. Elle me dit, il faut que tu te rendes indispensable au travail pour qu'on oublie ta couleur de peau et qu'on ne voit que tes compétences. Et du coup, bah, j'ai pris ça comme arme et j'ai fait mes études, tu vois. Et bon, tu connais les parents africains, t'as pas beaucoup d'options, soit t'es médecin, soit t'es ingénieur. Ouais. Tu vois. Donc quand tu commences à vouloir faire des trucs marketing, tout ça, là, ça passe pas, tu vois. Après, je peux les comprendre. Ils ont immigré pour... ils sont soit expatriés, soit immigrés, l'un des deux. Ça dépend des contextes. Pour, en gros, nous donner toutes les cartes pour avancer.
Donc, ils se sont beaucoup sacrifiés.
C'est ça, voilà. Mmh. Donc, je pense que c'est pas pour faire... Il n'y a pas de sous-métier, mais c'est pas pour faire...
Pas les mêmes études que, quoi.
Voilà, c'est pour viser le max, tu vois. Mmh. J'ai fait médecine. Ça n'a pas marché.
Mais c'est parce que t'avais une envie ou c'est que t'avais suivi...
J'avais toujours voulu être médecin. Toujours. Mais tu sais, la vie, voilà, tu planifies des trucs, la vie... En plus, j'étais hyper précoce. J'ai eu mon bac, j'avais 16 ans. Je vais avoir mon bac à 15 ans, mais j'ai retapé une classe, donc j'ai eu mon bac à 16 ans, enfin bref.
Quand nous, vous faisiez la Java au lycée.
J'ai eu mon bac à 16 ans, donc ma vie était un peu tracée, tu vois. Donc 24 ans, je vais sortir médecin, je vais passer mon permis à 18 ans. Tu sais, genre, j'avais tout planifié. Bon, la vie a dit, ferme ta gueule. Tu fais ce que je te dis. Bon, ça s'est pas fait. Et bon, par la force des choses, je suis entrée dans une école d'ingénieur. Une école d'ingénieur où on fait du développement, agro-développement. Et pendant toutes ces... En fait, je suis rentrée pour un but précis. Je voulais finir dans tout ce qui était, en gros, gestion de l'eau. Je sais pas pourquoi j'avais une sensibilité pour ça, gestion de l'eau, de l'environnement et tout. J'étais très sensible à ces aspects-là. J'ai bossé que d'arrache-pied pendant 2 ans pour avoir les bêtes de notes. En fait, pour choisir cette école-là, qui était très cotée, il fallait avoir un bon classement.
Ouais. Système français.
Je te jure. Donc, je me suis tuée et tout. J'ai eu mon classement. Je pense que je pouvais postuler à cette spécialité-là. Et à la dernière minute, j'ai changé. Je me suis orientée vers les industries. Et j'ai changé, pourquoi? Parce que j'ai vu les débouchés de justement le truc de gestion de l'eau là. Et je me suis dit, meuf, tu es noire, faut pas. Tu vois, il y a des. Je sais pas si pour toi tu le vois comme ça, mais il y a des métiers où faut pas s'orienter quand t'es noire, tu vois. Il y a des trucs où tu
ouais,
vas pas.
Ouais, ça on m'avait dit.
Tu peux pas exceller, tu peux pas. Enfin, tu peux pas, tu vas galérer. Du coup, je me suis orientée dans les industries. Je me suis dit, bon, de toute façon, ça, que ce soit l'industrie A ou B, je vais trouver du taf. Y a pas de souci. Donc, tout ça pour dire que la phrase « tu es noire et tu es une femme », en fait, a façonné ma carrière professionnelle, tu vois. Ça a façonné mes choix d'études, ma carrière et tout.
C'est ouf parce que ça peut briser des rêves, en fait.
Oui, en fait, c'est ça. Et quand j'écrivais l'épisode, justement, je me suis dit, mais en fait, je ne saurais jamais si je me suis mis des freins ou pas. En fait, je ne saurais jamais. Mais, par contre, il y a un truc que j'ai kiffé. Tu sais, quand t'as le choix et tu dis non. Ça, c'était jouissif, tu vois. Quand j'ai choisi ma SP, au final, j'ai dit non.
Mais bref,
c'était le petit kiff. Voilà, et toi?
J'avoue que moi, j'ai eu une phase au collège où je voulais être médecin.
Ouais.
D'un côté, c'était bon, l'influence familiale. Et me dire, ouais, bon, ça c'est important, tu peux aider partout dans le monde. Et c'est stylé, quoi. Puis en fait, moi, j'ai pas un esprit scientifique. Donc très vite, j'arrive en seconde, je comprends que c'est pas pour moi, ouais. Je lâche l'affaire. Et là, je me dis, ouais, bon, le business a l'air sympa, puisque moi je faisais, du coup, je suivais de l'économie.
Ouais.
Et j'aimais bien ce qu'on voyait. Et je me suis dit, bon, tiens, je vais peut-être me spécialiser plutôt en commerce international. Parce que ça te permet de découvrir des cultures, étudier des langues étrangères. Mmh. T'as le côté aussi histoire et jeu de pouvoir. Donc après, j'ai découvert que ça s'appelait la géopolitique. Et après, je voulais comprendre aussi comment les entreprises, elles devenaient grosses, quoi.
Ouais.
Ils allaient partout dans le monde. Et en plus, ça partait dans une idée, je vais bosser en Afrique. Mmh. Ou avec l'Afrique. Ma prof d'économie sociale en première... Alors, après, on parlait de malade.
Ouais.
Et déjà, à ce moment-là, c'était rare d'avoir des femmes en tant que prof d'éco. C'est rare. Hein.
Mmh.
Et parce qu'après, moi, j'ai eu que des hommes. Et elle vient un jour, elle me dit, oh, viens, on va discuter un peu. Et elle me dit, t'es brillante, tu peux aller très loin, toi, je m'inquiète pas pour toi, t'as un bel avenir. Mais n'oublie pas une chose, elle a utilisé ces mots-là.
Mmh.
Tu as un handicap dans la vie.
Ouais.
Tu es noire, tu es une femme. En plus, t'es musulmane.
Alors là, combo fatal, blablabla. Ah oui, parce qu'on l'a pas dit, je suis chrétienne et bi et musulmane.
Donc je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me dit, pas, tu vas devoir travailler plus. Dis-moi, j'ai vu tes capacités et tout, mais est-ce que t'as pas remarqué que parfois t'as des professeurs, tu vois, sont un peu bizarres avec toi au début?
Ouais.
Je me dis, ouais, j'avoue que je suis toujours obligée de démontrer que je suis capable. Et surtout que moi, j'ai un côté très nonchalant, donc tu penses que je suis un peu Google, quoi.
Mmh.
Je me dis, bon, c'est pas grave. Et moi, je continue ma vie et tout. Et arrive, tu vois, terminale, il faut choisir ton orientation. Je savais ce que je voulais faire.
Ouais.
Mais tu sais, le système français, t'as énormément de parcours pour arriver à un objectif.
Mm.
Ça a des avantages comme des inconvénients. Et moi, je dis texto, je vais faire un BTS. Et tout le monde me regarde. Mais c'est pas possible, regarde tes notes.
Ta mère, elle dit quoi?
T'es bien classée, jamais. Nanana. Et même les profs, hein, c'est parti dans un conflit. Tu dois faire une prépa ou, si tu veux, une licence économie. Et je fais, mais non, moi, les histoires de théorie, c'est pas pour moi. Je vais pas m'asseoir, comme là, j'ai fait pendant 3 ans, vous écoutez me parler des théories, je sais même pas comment ça s'applique, en fait, ouais. Dans la vie. On fait un bras de fer, puis à la fin, on trouve un compromis, le DUT. Donc, je fais ma vie, on me dit, tu fais ton DUT, après, tu fais une école de commerce. Je fais mon truc, je suis trop contente et tout. Tout se passe plutôt bien, un parcours linéaire. Et première année de master, j'ai un dilemme. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'avoue que quand je suis revenue de mon Erasmus en Espagne, là, ma tête a été chamboulée.
Ouais.
Et j'ai eu un dilemme assez important. Et je me dis, est-ce que je devrais pas refaire un master en relations internationales, donc accès politique. Parce que pour moi, je me posais cette question, est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est l'économie qui sont plus pertinents dans tout ce qui est développement?
D'accord.
Et là, je tournais en rond, puis après, je dis, bon, vas-y. Fais ton parcours fini et à la limite, si t'aimes pas, tu reprends un master en relations internationales.
Mmh.
Donc c'est comme ça que j'ai fini dans mon truc commerce international avec plein de rêves.
C'est des rêves.
Et voilà quoi. Après, c'est ouais, comme toi, ça a façonné en fait ma carrière. Hein.
Ouais.
Et bon, après, je m'avoue que je me suis pas restreinte moi par rapport à la carrière. Mais,
Je sais pas si. En fait, j'aurais jamais la réponse. Je sais pas si je me suis restreinte, mais. En fait, le problème, c'est qu'on te dit que c'est un handicap.
Ouais, ah, c'est le mot qui s'utilise.
Moi, c'est pas la première fois qu'on m'a plusieurs fois dit que c'est un handicap.
Mmh.
Donc, tu dis, bon, t'as déjà ça. Enfin, sachant que le mot handicap, quand même, il est fort, tu vois.
Bah ouais, moi, je trouve ça déjà. Ouais, c'est un manque de respect.
Bah oui, vis-à-vis des gens qui ont des vrais handicaps, tu vois. Mmh. Enfin, c'est quand même grave de me dire que je suis une noire et je suis une femme noire et c'est un handicap, c'est chaud.
Bah, on dit que ton identité est un handicap.
Ouais.
Mais finalement,
tu dis que t'es une femme et t'es noire. Pourtant, t'es dans l'industrie qui est quand même un domaine d'hommes.
Oui, ici.
Oh, même en France.
Non. J'excelle ici.
Oui.
Tu vois, parce que faut pas oublier que les carrières qu'on a ici, on aura attendu très longtemps, genre très longtemps avant de les avoir en France.
En te disant que tu es jeune.
C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, parce que oui, en plus, tu es une femme noire, on te rajoute que tu es jeune. Mm. Qui est un autre handicap, d'après eux.
Qu'est-ce qui t'a fait dire, bon, bah, tiens, je vais bosser dans l'industrie, et d'ailleurs, dans quel domaine de l'industrie?
Moi, j'ai toujours voulu bosser en agroalimentaire. Enfin, je suis toujours dans cette optique-là, aider les autres, tu vois. C'est d'abord la gestion de l'eau, après, enfin, c'était d'abord être médecin, après, c'était la gestion de l'eau. Maintenant, c'est l'agroalimentaire. Je dis, bon, de toute façon, les gens auront toujours faim, tu vois. Ouais. Quand j'ai bossé dedans. Et aussi, je suis sûre de ne pas chômer, en fait. Il y a surtout ça, à la fin. Tu dis, bon, je suis sûre de ne pas... Je vais pouvoir rebondir.
Ouais, ouais.
C'était ça, la phrase, quoi qu'il en soit, je vais pouvoir rebondir. Non, c'est pour ça que je me suis orientée dans cette voie-là. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Hein. Enfin, je ne savais pas que ça allait être un problème, entre guillemets, que je sois... femme, jeune. Enfin, moi, j'y allais parce que bon, ça m'intéressait. C'était de la logique, c'était de la mise en place de trucs, c'était résoudre des problèmes. J'aime ça. Mais à aucun moment, je me suis dit qu'être femme dans un contexte-là, j'allais galérer, quoi.
C'est là où l'école a failli.
L'école te prépare pas à ça. Ouais. On va te donner de grandes théories et tout, mais jamais on va te dire que, en fait, demain, tu vas manager des personnes qui sont plus vieux que ton père.
Ouais, ça, c'est vraiment horrible. Moi, je sais que, par exemple, dans mon choix de carrière, je me disais, bon, commerce international, tu peux bosser dans beaucoup de trucs, logistique, finance, développement commercial, même communication, marketing. Et après, moi, j'étais, bon, tiens, je vais me faire kiffer. J'ai vu que j'aime bien faire des rencontres, faire des déplacements, voyager et tout. Tiens, fonction commerciale, c'est sympa.
Ouais.
Et en plus, tu vois tes résultats directs, c'est visible. Donc, tu sais ce que tu fais, quoi. Et en parallèle... Comme toi, tu chômes pas, il y a toujours du taf, on a toujours besoin de quelqu'un qui va vendre tes choses. Mmh. Et c'est bien payé. Bon, l'argent, quand même, c'est important. Et surtout que moi, tu vois, je voulais absolument grimper les échelons, quoi.
Ouais.
Donc, carriériste à fond, et je me dis, bon, ça, c'est bien, tu vois. Moi, je supporte pas tout ce qui est théorie, donc si je dois passer mon temps à juste lire des textes et pondre des théories, je pourrais pas, et des concepts. Et rester enfermée dans un bureau toute une semaine, je peux pas. Je peux péter un peu. Faut que je sorte un peu.
C'est ça.
Donc ça, c'était pareil. Donc, tu vois, je me suis spécialisée. J'ai trouvé mon créneau qui était la distribution. Au début, j'étais contente. Puis, j'ai découvert que la vie, c'est pas ça.
Ah, en tout cas.
Ah non.
Non, mais c'est chaud.
Non, non.
C'est chaud. On te prépare pas à ça, en fait. On te prépare pas aussi de management que tu dois adopter. On te prépare même pas à comment tu dois te comporter vis-à-vis de ton manager à toi.
Ben c'est ça, et ça a un impact direct en fait sur ta vision du travail, parce que tu commences avec une telle vision du travail A, puis en cours de route ça change, et quand ça change, c'est là où t'es perdu, tu sais pas trop, tu te poses des questions.
Ouais, ouais.
Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de gens qui se posent des questions, c'est moi, quel est le sens de ma vie, est-ce que je dois me reconvertir, est-ce que je dois continuer dans
qui
ma...
Qui font des bilans de compétences, il y en a plein, qui... enfin, dans notre entourage, il y en a plein qui le font, parce que quand tu goûtes à ça, tu te dis, mais c'est... Enfin, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est pas du tout ce pourquoi j'ai étudié si longtemps, en fait.
Ouais.
Moi, je me souviens, le premier jour où j'ai travaillé, je me suis dit, bah putain, si c'est ça ma vie, non merci, quoi. Non, mais c'est vrai. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, c'est toute ma vie, travailler. Ah. Ça devient ça, en fait, le travail. Enfin, à part ça, il te reste quoi? Il te reste le week-end et les soirées. Les soirées où t'es trop claqué, tu vas dormir direct.
Et encore, ça dépend des soirées. Hein.
Ouais, c'est ça.
Bah, comment dire? Moi, je sais qu'avant, je me disais, tu vois, le travail, c'est la finalité.
Et justement, non, justement, c'est ça le problème.
Mais tu sais, je suis sortie d'école, dans ma tête, c'était ça, tu vois. Le travail, c'est la finalité. Pour moi, c'est l'endroit où tu vas apprendre. C'est un peu une école en continu où tu passes du temps à apprendre. Moi, j'adore apprendre, donc c'était cool. Tu vois, c'est ça. Je me disais, on est dans un environnement stimulant, bienveillant. On fait plein de choses, on met des choses en plein. Attends, moi je savais pas, tu vois, c'est naïf. Tu vois, tu te dis, bon voilà, après je me dis, bon, je travaille comme ça, après quand j'ai 45-50 balais, je suis fatiguée,
je deviens consultante ou coach, tu sais, à mon compte et tout, pépère, j'ai trop, toute ma thune, tu sais, j'ai fait carrière, je suis allée le plus haut possible et c'est fini, quoi. Puis après, je suis tombée et la chute était violente parce que je me rends compte que le travail, c'est pas la finalité.
Oh, bah oui, ouais.
Et j'ai dû accepter qu'en fait, le travail, c'est en fait un moyen.
Exactement.
Pour arriver à ta finalité.
Ouais.
Donc, si toi, ta finalité, surtout qu'en fait, je disais la finalité, mais en fait, il y a plusieurs finalités. Et donc, du coup, c'est un moyen pour se faire de l'argent, pour avoir de la stabilité, à aussi s'épanouir dans ses passions.
Ouais.
Et se faire kiffer, faire des bons moments et profiter de ses proches, quoi.
Ouais, moi, mon problème, c'est le temps que ça prend, en fait.
Bah ouais.
C'est ça, moi, c'est là où il y a. Enfin, c'est là. Toute ma frustration, ça prend trop de temps. Il y a justement, il y a, en préparant l'épisode, je suis tombée sur une vidéo brute de la philosophe Julia de Funès qui parlait du télétravail. Tu sais qu'avec le Covid-19, là, enfin la Covid-19, whatever, ils sont en train de repenser la manière dont il faut travailler. Et elle disait que le télétravail serait un moyen de remettre la place du travail dans une vie. En gros, elle disait que justement, on a tendance à penser qu'aujourd'hui, non. C'est même pas on a tendance à penser. Aujourd'hui, la finalité d'une vie, c'est le travail. Alors que c'est pas ça le but. Comme tu disais, c'est un moyen, en fait. Et le télétravail permettrait justement de remettre les choses en ordre. Et aussi d'éviter le présentiel. C'est
aussi.
Où tu vas au travail, tu montres que tu es en train de travailler alors que tu fais rien. Alors que ça, c'est... Enfin, montrer que tu es en train de travailler, c'est déjà un travail en soi, tu vois.
Ça c'est toute un énergie.
C'est toute une pièce de théâtre que tu as montée, tu vois. Donc ça éviterait ça et ça serait intéressant de faire un hybride des deux, d'alterner entre télétravail et travail physique. Mais même moi, télétravail, ça me dérange. Parce qu'en fait, moi, je fais vraiment la distinction entre travail et ma vie personnelle. Déjà, même les freins que je porte au travail, je ne les mettrai jamais dans ma vie personnelle. Pour te montrer à quel point la scission est
importante.
Importante. Mes collègues... Bon, après, mes collègues aussi, c'est différent. Tu vois, c'est différent. C'est très hiérarchisé et tout. Donc, je ne peux pas forcément traîner avec tout le monde et tout. Même mes collègues, il y a une séparation. Genre, voilà, mon téléphone, tu as les contacts du travail, tu as les contacts... On ne mélange pas les deux. Parce que pour moi, c'est dès qu'il y a une... Pour moi, c'est une manière à moi de me protéger, de mettre des limites. Parce qu'on est jeune. Et à des fois, bah, l'équilibre vie pro et perso, il n'y en a pas, quoi.
Surtout ici.
Il n'y en a vraiment pas.
Et le pire, c'est quand tu as ces frustrations, c'est d'en parler à tes parents, parce qu'on n'a pas le même rapport au travail.
Non. Non, enfin, c'est pas qu'ils ne comprennent pas, mais je vois d'où ils viennent, tu vois. Donc pour eux, c'est inconcevable qu'on chipote pour des trucs comme ça.
Ah non, non.
Tu sais, on fait partie quand même de la génération où il faut être passionné pour qu'on fasse des trucs. La preuve, les entreprises n'arrivent plus à nous garder, parce que dès que ça nous saoule, on claque la porte, tu vois.
Je suis un parfait exemple.
Mais nos parents, c'est juste inconcevable. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais... Il y a une phrase que ma mère me dit souvent en dialecte. C'est genre... je vais dire choumipoum, tu vois. Je ne sais pas. Désolée, je ne sais pas prononcer ça en bamoun. Elle dit, mais reste tranquille, en fait. Genre, reste tranquille. Accepte la situation et reste tranquille, tu vois. Quand il y a des espaces, des trucs, elle me dit, reste tranquille. Parce qu'elle, elle est en mode survie. Enfin, voilà, quand elle te raconte son parcours, c'est un truc de dingue, en mode survie, vraiment. Alors que nous, aujourd'hui, on est plus passionnés à faire de peau et tout, bon, sans non plus faire n'importe quoi, faut pas être... Enfin, je sais pas, faire de l'astronomie, espérer avoir un taf demain, ici, par exemple, ça. Enfin, je prends un cas extrême.
Ouais.
Mais pour eux, c'est juste inconcevable.
Ouais, bah, moi, j'avoue qu'on a quand même un peu un certain confort, on peut se permettre de faire ça, contrairement
à
eux.
Ouais, sûrement, ouais.
Parce que... Moi, je sais que mes parents... Bon, pour eux, déjà, le travail, c'est juste un moyen. C'est pas un endroit où ils s'épanouissent plus que ça.
Oui, oui, oui.
Et pour eux, c'est un moyen de satisfaire leurs besoins, d'élever leur famille. Et d'un côté, moi, je comprends aussi leur détachement total par rapport au travail parce que, bon, voilà, eux, ils ont quitté la Guinée-Bissau avec leur diplôme Bissau-Guinée. Ils arrivent en France, c'est pas reconnu.
Ouais.
C'était comme ça, les années 80. Et c'était galère de trouver un travail. Donc, dès que tu en trouvais un, ça te faisait pas plus chier qu'autre chose... Tu le gardais, hein?
Ouais, du moment où tu pouvais nourrir ta famille et tout. Mm. Ouais, ma mère, c'est pareil, elle a dû reprendre ses études à 45 ans. Mm. Bon, voilà, elle avait. Ouais, ils comprennent pas.
En même temps, ils soutiennent quand même, hein? Donc.
Ils soutiennent, mais il y a des limites. Il y a des limites. La dernière fois, je parlais à ma mère, je dis, ouais, je vais faire. Ouais, juste comme ça, tu fais des paroles en l'air. Je dis, ouais, je vais faire une année sabbatique. Elle fait. Là, c'était...
Mais en même temps, tu viens de lui dire que tu vas pas travailler.
Ouais, c'est ça, en fait.
Et... Je sais pas comment c'est tes parents, mais moi, mes parents, culture du travail jusqu'au bout. Hein. Tu peux pas rester rien faire. Hein.
Non, ouais, c'est pas possible.
Parce que même quand tu dis que tu restes à la maison, bah, tu vas faire du travail à la maison, quoi. Mmh. Tu vas ranger, faire des choses.
C'est ça, tu peux pas rester inactif. Ah, tu peux pas. Tu peux pas. Ma mère va te dire, il n'y a rien à faire dans cette maison.
C'est pareil.
Moi, j'ai trouvé ça quand même dur. Hein. La fonction de manager, je trouve ça dur. Surtout ici, comme je dis, je redis. Vu que tu es dans un contexte masculin, désolée à ce que ça va blesser, mais bon. J'ai l'impression qu'en fait, moi, personnellement, je passe mon temps à flatter les goûts des hommes, tu vois, pour obtenir ce que je veux.
Ouais, c'est
ça. Il faut toujours caresser dans le sens du poil, il faut toujours faire attention, il faut toujours... Voilà, jouer la carte de la demoiselle en détresse. Ils adorent ça. Des fois, t'es obligé de fermer les yeux sur certains trucs. Pourtant, tu bouillonnes à l'intérieur.
Ouais.
Mais tu sais, bon, si ça va te permettre que le travail avance, ouais, choisis tes babas, tu vois.
Après, moi, tu vois, j'irais des équipes. Je l'ai vu dans différentes zones.
Ouais.
Parce que du coup, j'ai vu en France, et je l'ai vu ici. Mmh. Flatter les égos, c'est pareil. Moi, à 23 ans, on me dit tiens, tu vas gérer des équipes.
Ouais.
Bon, principalement des hommes, mais qui avaient 10-15 ans de plus que moi, et donc 10-15 ans d'expérience de plus que moi.
Ah, bah oui, c'est ça.
On me demande de faire ci, ça, ça. Et au début, tu vois, moi, je m'impose pas parce que je me dis ils savent plus que moi. Donc, ouais.
Dans le respect et tout.
Voilà, on est complémentaires. Et il y avait un gars, mais ce gars, hein, ah, le gars voulait prendre mon poste.
D'accord.
Donc le gars m'a saboté, il a fait de la rétention d'informations, il a contesté ce que je disais, il est même allé me descendre auprès de ma boss à plusieurs reprises, et à la fin, tu vois, tous les collègues viennent me voir, ouais, attention, lui, vraiment, il t'aime pas, il veut prendre ton poste et tout. Et je dis, laissez-le, qu'il prenne. Le gars teste ses trucs, il fait 2 ou 3 essais, échec total.
Ouais.
Puis j'ai dit, alors, comment ça se passe, truc, ce que t'as fait? Ouais, bah bizarrement, en fait, j'ai pas compris, j'ai pas réussi. Je dis, ouais, mais en fait, tu crois que mon taf, c'est juste me promener, vous regarder, me faire les yeux doux. Et puis finalement, le gars, il s'est barré de la boîte, tu vois. Moi, 23 ans, je me suis dit, ah, si c'est ça, gérer des équipes, franchement, ça vaut pas le coup. Hein.
Ouais, on te prépare pas au coup bas, on te prépare pas au coup de crasse, on te prépare pas aux messes basses. Et surtout, à faire attention à ce que tu dis, tu vois. Parce que dans une entreprise, t'as toujours des camps.
Ouais.
T'as toujours des... cette espèce de Game of Thrones qu'on nous appelle dans ma boîte. Je dis, mais... En fait, il faut toujours faire attention à ce que tu dis aux gens parce que tu sais pas qui est ami avec qui.
Aussi.
Et ça, j'ai appris à mes dépens.
Moi, finalement, ouais, gérer des équipes, c'est difficile. Puis, bon, ça s'apprend. Mais le plus dur pour moi, c'est de gérer ma relation avec mon responsable, mon manager.
Putain, moi, c'est tout le contraire. En fait, moi, c'est toujours mes équipes, tu vois. Mon manager, bon, il est là, il est pas là. Les choses avancent, tu vois. J'en ai eu plusieurs. En général, il me laisse faire. Il me laisse gérer mon truc. Mais c'est marrant que toi, tu veuilles toujours... Enfin, c'est le contraire, c'est marrant.
Bah, c'est que j'en ai eu, bah... C'était tranquille. Ça comptait pas.
Mm-hmm.
Et j'en ai eu 3. qui, eux, tu vois, m'ont fait prendre conscience que... La relation avec le manager aussi, ça compte.
Oui.
Et en plus, moi, c'était ces problèmes relationnels-là qui me mettaient en boule de nerfs, tu vois.
D'accord.
Puis ça allait vraiment loin, tu vois. Tu sais, les bails devant te coupent la parole en réunion, le micromanagement poussé. Je peux comprendre que quand je débarque, tu aies besoin de micromanager parce que tu me connais pas, on se connaît pas.
Ouais.
Mais au bout d'un moment, lâche-moi les basses, quoi. Ouais, tu vois, c'est des trucs comme ça... Ça m'a vraiment énervée et j'en ai même certains qui faisaient de la rétention d'informations. Il y en a qui boudaient, qu'il fallait... c'était comme si c'était mes parents, tu vois. Ouais. Moi, c'est même pas mes parents, c'est comme si c'était mon petit frère ou ma petite sœur que je devais aller, viens, hé hey, gars, c'est toi le manager. Après, je me suis remise en question sur un truc, parce qu'il y a une chose, c'était ma faute.
Ouais.
C'est que quand j'ai commencé à travailler, je savais pas dire non. Parce que, en fait, c'est lié à ma personnalité dans le sens où moi, je déborde d'énergie, j'adore apprendre. Et quand je suis en train de commencer un truc nouveau, je suis tellement à fond, je vois pas l'heure passer. Puis quand j'ai commencé à trouver que c'était beaucoup trop, m'avait trop acculé, je commençais à dire non. Et ma première, non, c'était ma troisième manager, elle m'a dit, non, mais tu sais que tu sais pas tu aides trop les autres. Et je lui ai dit, mais en fait, t'es pas dans l'open space, en fait, avec nous. C'est que moi, il y a des trucs que je sais pas faire ou que je peux pas faire, en fait. Donc, je délègue. Elle a pas voulu comprendre ce que je disais. Je suis un peu bâtarde et filou, moi, quand je veux. Je vais juste arrêter de faire ce qu'elle me demandait. Puis, quand elle a compris que c'était chaud à faire elle-même, elle m'a dit, ah, je comprends, nanani, je vais t'enlever un peu de charge de travail. Mais comment tu veux commencer ta carrière quand tu sais qu'on te dit, tu es jeune, tu es femme, tu es noire, et donc que c'est un handicap, que tu puisses dire non, en fait, à certaines choses. Ce que tu dis, ça se trouve, ces opportunités-là, elles ne vont pas se représenter.
C'est ça aussi, ouais. C'est, on a prouvé, enfin, on veut prouver, quoi. Donc, ouais, c'est ça qui est compliqué, des fois. Et surtout, quand tu arrives à un certain niveau, bah, tu ne peux pas forcément dire non.
Ouais, c'est délicat.
Tu peux pas, ouais, tu ne peux pas, en fait.
Ah non, c'est...
Tu vois, c'est là où je te dis qu'en fait, le travail est problématique. Ça s'empiète sur ta vie. À l'heure actuelle où j'enregistre, je sais que si mon téléphone sonne, je vais le prendre. Parce que je me dis, c'est peut-être une urgence du travail, tu vois. Alors que normalement, ça devrait pas. Normalement, stop, quoi.
Bah ouais, et c'est pour ça que, d'ailleurs, moi, je me pose toujours la question, c'est on a de plus en plus d'outils technologiques qui devraient justement nous permettre d'être plus productifs, efficients et... de devoir moins travailler, en fait, puisque toutes ces tâches-là, ça va vite. Et j'ai l'impression qu'on fait de plus en plus d'heures, en fait.
Ouais.
Maintenant, je dis non. Mais avant, bah, j'avais pas ce réflexe.
Ouais, parce qu'avant, t'as pas confiance en toi, tu sais pas où tu vas aller, t'es pas sûr de toi. Mais une fois que t'es un peu rodé, tu dis ouais, fuck. Non, moi d'abord, tu vois. De toute façon, si je suis pas en forme, je pourrais pas vous aider.
C'est ça. Donc, Et je trouve que c'est cet aspect-là qu'on n'a pas appris à l'école. C'est bien dommage.
Et il y a aussi le fait que. Enfin, comme j'ai dit, moi c'est l'inverse. Moi c'est plus vis-à-vis des équipes. Moi j'étais pas prête aux problèmes sociaux, en fait.
Ah.
Je suis pas. Enfin, j'étais pas outillée pour ça. Quand t'as les gars qui sont énervés et qui te disent non pour une décision que tu dois prendre, enfin je savais pas qu'il fallait autant de... On te dit pas, en fait, que tu dois engager dans un pourparler, tu dois inclure les ressources humaines, que tu dois lire les textes de loi, expliquer, convoquer plusieurs réunions. Mais j'étais pas préparée à ça. Je me souviens, pendant ces périodes-là, j'allais au travail, la boule au vent, je me dis, mais merde, si eux tous, là, ils sont une cinquantaine, si eux tous, là, ils décident de se fâcher sur moi, qu'est-ce que je vais dire, tu vois?
Ouais.
Et on te prépare pas au... À quand tes collègues ont un décès. Tu sais, on est quand même en Afrique, en Côte d'Ivoire et tout, c'est très très, c'est très, très communautaire, tu vois. Quand il y a un décès, c'est tout le monde qui pleure ensemble. C'est pas juste mes condoléances, c'est tout le monde. Et je me vois, à chaque fois, on doit les réunir, parler, galvaniser les équipes. On n'est pas préparé à ça.
Bah, c'est que moi, je sais que dans mes études, on avait ce qu'on appelait la conduite du changement.
Ouais.
Donc, on nous expliquait comment fallait faire, voire même... En fait, on donne beaucoup de tips de manipulation.
Mais c'est totalement ça.
C'est ça. Tu sais, on est préparé sur cette partie-là, mais juste la dimension humaine est totalement occultée sur à quel point, tu vois, tu peux aller au boulot avec la boule au ventre.
Oui.
Et comment pas perdre la face, en fait, en réunion, quand ils sont tous en train de gueuler sur toi ou lâcher leur nerf. Et c'est ça, quoi. Et quand il y a des événements tragiques, moi, je sais que j'ai dû faire face à des membres de mon équipe qui se sont fait agresser.
Ouais.
Comment je gère ça?
C'est ça.
Alors que c'était dans le cadre du boulot, tu vois. Je fais, bon, attends, on va aller à la police ensemble, des trucs comme ça. Mais
moi, est-ce que c'est ta place? Est-ce
pas.
Que tu fais bien? Est-ce que, tu vois,
non.
Il y a tout ça, on te dit, mais... Et dans ces moments-là, j'appelle toujours ma mère. Bah, je vous ai dit, c'est elle, mon coach de vie, donc... Enfin, elle me dit, ouais, c'est ça, mais prends sur toi, tu vois. C'est la vie, en fait.
Ouais,
mais... Et c'est très compliqué. Au final, je trouve qu'en management, t'as une dimension psychologique qu'on néglige, en fait, qui est énorme. Attends, combien de fois j'ai vu des hommes, je me dis, plus âgés que mon père, pleurer, en fait, pour telle ou telle situation. Me dire que, ouais, c'est chaud et tout, il y a tel truc qui est à l'hôpital, il y a tel qui est machin, il y a un accident de tel et tout. Et vu que tu passes tellement de temps avec ces personnes-là, en fait, ça devient comme... Ça devient limite ta famille, tu vois.
Bah, c'est ça, c'est ta famille quand même.
Moi, avec mon petit. Enfin. Avec mon petit. Mes petites années passées sur Terre, qu'est-ce que je sais en fait, au final, par rapport à tout ça?
Bah, le truc, c'est que dans ces moments-là, tu te reposes beaucoup sur ton éducation.
Ouais.
Et ton intuition.
Et... c'est surtout l'intuition.
Ouais. Et au bout d'un moment, quand t'es un peu perdu, bah, t'appelles ta famille ou tes potes et tu demandes des conseils de comment réagir autre. Mais franchement, tout ça, c'est tellement subjectif. Et tu vois, par exemple, tu vas avoir tel comportement avec une personne A, ça va bien passer. Tu refais la même chose avec une personne B.
Ah ouais, mais ça pète.
Ça pète, parce que l'autre, bah, c'est pas sa personnalité, il est pas comme ça, en fait. Ça l'intéresse pas.
Mais il y a des trucs où... il y a des fois, je reste dans mon bureau et je suis démunie, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Merde. Parce qu'au final, c'est pas juste être rentable, c'est pas juste la productivité et tout. Si tes gars sont pas bien, tu fais rien, en fait.
Bah ouais. Mais bon... Après, c'est... bah, là, nous, on en discute parce qu'on se pose des questions. Mm. On n'a pas les réponses. Hein, ça se trouve, d'ici 5-10 ans, on aura une nouvelle vision du travail. En plus, ils disent souvent, que ce soit les parents ou certains collègues, quand tu as une famille, tu as un autre rapport ou une autre vision du travail.
Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on prend trop les choses à cœur. Tu vois. Peut-être qu'on n'a pas... ma mère dit, tu auras d'autres problèmes.
Ouais, c'est ça.
Et tu vas te détacher un peu plus.
Donc voilà, c'était le discours de deux anciennes hyper carriéristes qui pensent qu'elles ne le sont plus. Bref, passons au kiff du moment.
Yes.
Alors Nikki, qu'est-ce que tu fais en ce moment ou que tu as envie de partager?
Alors déjà, un petit disclaimer. Je sais que pendant tous les épisodes, on critique beaucoup le panafricanisme. Mais en fait, on critique le panafricanisme que nous, on appliquait. Mm. C'est-à-dire le panafricanisme du canapé. Genre, tu es sur ton canapé, tu ne fous rien.
Avec ton confort.
Ah, avec ton confort. Et tu blablates.
C'est sur des choses que tu ne connais pas.
Exactement. Je suis panafricaine dans l'âme. Il n'y a pas de... voilà. Mais aussi, il faut se mettre en tête que chaque pays a son président et chaque pays a sa population. Donc, pour moi, tu peux être panafricain, mais de l'extérieur, en fait. Tu peux pas être panafricain quand t'es dans un pays africain, je trouve. Tu peux l'être symboliquement ou à petite dose. Mais quand tu vois tous les problèmes qu'il y a dans ton propre pays, c'est dur de s'intéresser à un autre, je trouve.
Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est que tu visais... ouais, ton raisonnement, il doit être plutôt localisé, quoi.
Exactement.
Et après, moi, ce que tu dis, il y a un côté, le panafricanisme politique, en fait. Moi, c'était celui-là que j'avais en France, que j'ai réfuté, je n'en veux plus.
Ouais.
Parce que je me sens pas légitime à interférer dans tout ce qui est politique et tout, parce que y a des choses, on sait pas ce qui se passe.
Ouais, on n'a pas les compétences pour.
Voilà, donc moi, c'est plutôt genre promotion culturelle... Et ouais, je vous balance mon argent à grand cœur.
Exactement.
Acheter tous les produits locaux, aucun souci. Voilà. Voyager, faire du tourisme sur le continent, ça j'adore.
Donc c'est une forme... voilà. Donc, c'était juste pour éclairer ça. Et je fais un coucou à Laure, au passage. Des bisous. Et en kiff du moment, j'en ai... allez, trois. J'ai lu le livre de Fania Noël sur l'info communautaire. Ça part de tenir à soi-même. Pour une néophyte en tout ce qui est politique, en fait, franchement, j'aime pas. Est-ce que j'aime pas ça ou je n'y comprends rien? Je pense que c'est entre les deux, tu vois. J'ai lu son livre, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié son point de vue sur la faux communautarisme et pourquoi c'était important de l'être. Donc voilà, je vous le recommande. Et le deuxième kiff, c'est Leonora Miano.
Ah, ma gosse.
Franchement, cette dame, je bois ses paroles, tu vois.
Ah, juste pour ajouter un truc, on l'a vu en vrai.
Oui, on l'a vu en vrai,
Elle, elle est trop bien. Franchement, une personnalité de malade.
Elle nous a intimidés de ouf.
Ouais, j'avoue, j'étais mal à l'aise.
Voilà. Et j'ai lu son livre « L'impératif transgressif ». On l'a vu l'année dernière, j'ai lu que cette année. Et en gros, pour résumer, et pas faire de spoiler, elle donne son point de vue sur les œuvres littéraires subsahariennes et la place ou l'espace qu'on veut bien leur accorder. Mmh. Elle va te parler de la langue dans laquelle c'est écrit, elle va te parler de son expérience à elle, elle insiste beaucoup sur le fait qu'en fait, il faudrait que dans notre histoire, on puisse raconter l'histoire des victimes, des familles des victimes, des personnes déportées ou transportées. Elle revient sur le thème trait de négrière ou trait des esclaves qu'elle ne préfère pas utiliser, mais elle préfère utiliser la déportation transatlantique des subsahariens. Mmh. En fait, parce que quand tu dis trait négrière ou trait des esclaves, c'est-à-dire qu'on part du principe que ces personnes-là, avant la traite, étaient déjà des esclaves. Ouais. Alors que ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est très intéressant d'être dans sa tête. Parce qu'en gros, c'est le livre, elle commente, et c'est une mine d'or antenne de références subsahariennes. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de références. Il y a une liste de 12 livres, là, que je dois lire, vraiment. Donc, c'est très bien. Bon, après, c'est du Leonora Amiano. Faut plutôt être éveillé quand tu la lis, tu vois.
C'est pas un roman. Hein.
Voilà, c'est pas un roman. Et elle m'a fait le plus gros disclaimer de... franchement, j'ai eu un seum intergalactique quand j'ai su ça. Il y a un vêtement chez nous, ça s'appelle le kaba.
Ah oui. Gondo.
Et elle dit en fait que le kaba gondo, ça a été amené par la femme d'Alfred Sacker. Alfred Sacker, c'est un missionnaire anglais qui est voilà, venu évangéliser les gens au Cameroun à l'époque. Et elle a donné ça aux femmes Douala, de l'ethnie des Douala, à porter parce qu'il ne fallait pas être à moitié nu devant Dieu. Donc, c'est-à-dire que notre vêtement emblématique, le kaba gondo, parce que franchement, en tant que Camerounais, le kaba... Quand tu mets ton kaba, ça veut tout dire, tu vois. Soit tu veux te fighter, soit tu veux faire à manger, soit tu veux te mettre à l'aise. Mais après, c'est comme toute autre chose. C'est comme, par exemple, dans certains autres pays africains où tu as une seule langue qui domine et tout. Justement, c'est tout ce que la colonisation a apporté, enfin, plutôt tout ce que la déportation transatlantique des subsahariens, des TS, a apporté et qui a transformé la culture locale. Chose qu'on ne met pas forcément en avant dans les ouvrages, en fait. On va parler de la colonisation, de la DTS. Mais jamais insister sur toutes les réformes que ça fait au plan local. Ouais. Et on va jamais te dire qu'en fait, il y a eu des gens qui ont été... t'as eu des déportés, mais t'as aussi eu des transportés. Ouais, les personnes transportées, c'est ceux qu'on a juste... On a changé de localité, mais qui n'ont pas traversé, en fait, qui n'ont pas pris la mer.
Ah, dans ce sens-là.
Voilà. Mm. Et ça aussi, on n'en parle pas. Mm. Par exemple, il y a les gens de mon ethnie, les Bamoun, qui ont été déplacés vers les côtes du Cameroun. Et ils sont peuplés là-bas. Donc voilà, j'avais dit un troisième aussi, c'est le podcast Splash que j'ai découvert sur l'économie parce que je m'intéresse à l'économie maintenant. Donc c'est sympa, c'est une vingtaine de minutes et vulgarise un peu les concepts économiques, il explique pas mal de choses. Il y a un épisode que j'écoutais en particulier sur l'aide au développement qui est très très explicite. Donc par rapport à l'épisode 5, partie 1 et 2 qu'on a sorti, ça serait un bon complément pour comprendre les limites du développement. Donc voilà, et toi ?
Sinon, pour moi, en termes de kiff du moment, donc le premier, dans l'épisode 4, je vous ai parlé du livre Sapiens, où je parlais de comment ça m'avait affecté sur le plan de la révolution agricole et toute la souffrance qu'on impose aux animaux. Donc j'ai creusé le sujet où j'allais, pendant le confinement, j'ai regardé tous les documentaires sur Netflix sur l'alimentation, l'environnement et la santé.
Ouais.
Et je me suis dit, bon, première phase, je me suis renseignée. Est-ce que je peux toujours continuer à faire l'autruche, à continuer à consommer autant de viande, même si je n'en consommais pas tant que ça, mais quand même j'en consommais beaucoup. Donc j'ai commencé à me dire, bon, je vais suivre ma consommation de viande et essayer de diminuer quand je le peux.
Ouais.
Et donc je me suis amusée à faire des déclinaisons de recettes bisaokinènes en version végétarienne. Donc nous, on a un plat qu'on appelle kanj. Ouais. C'est une sorte de porridge, un bouillon de riz avec des fruits de mer et du poulet.
Mm.
Donc je l'ai fait sans le poulet, en fait, c'est très bon, ça va. Et j'ai fait le mafé sans viande.
Ça te choque ?
Non, ma mère, je sais qu'elle sait le faire, elle l'a déjà fait. Et moi, j'étais... Oh, dans quoi je m'embarque. Et je l'ai fait, donc j'ai mis à la place j'ai mis du manioc, nous dans notre version mais pas de manioc.
Ouais.
Donc moi j'ai mis du manioc, j'ai mis vraiment beaucoup de crevettes séchées, c'est ça que nos parents adorent.
Ouais.
Et des feuilles pour qu'il y ait un peu plus de protéines. Ça allait, mais je suis désolée de le dire, mais le mafé avec de la viande c'est vraiment meilleur.
Ouais. Enfin je sais pas vous, enfin ouais.
Bah nous t'as des plats sans viande. Mais après, genre, moi, mes plats emblématiques, ceux que j'adore, ils ont de la viande en fait.
Ouais,
et t'as même des plats où parfois t'as 3 ou 4 viandes différentes dedans.
Ah ouais.
Ouais, on est très carnivores, je suis désolée. Mais donc j'ai voulu tester, je trouvais ça intéressant. Et après, j'ai testé sur d'autres trucs, mais bon, voilà. C'était. Parce que je me dis, quand tu sais, tu peux pas faire l'autruche.
C'est ça.
Et mon autre kiff, en fait, c'est deux lectures que j'ai faites.
Comme je me pose beaucoup de questions sur le sens de la vie,
ouais,
j'ai décidé de relire L'Alchimiste de Paulo Coelho.
Oh, putain, ce livre.
Ah, je l'ai relu. C'était la troisième fois que je le lisais.
Ouais.
Et ça m'a apaisée. Ouais. Donc, quand j'ai fait donc, le texte là que je vous ai lu, dans ce qui m'a apaisée, bah, c'était ça. Mmh. Il y avait ce livre-là, dans le sens où il parle en fait de sa quête personnelle et le sens de la vie et l'importance à accorder au moment présent et aussi.
J'ai l'impression que c'est vraiment ça, 2000.
C'est ça, c'est apprendre à lâcher prise, à accepter les choses. Et j'ai commencé, je voulais la lire depuis longtemps, Françoise Vergès.
Ah oui.
Et donc j'ai commencé avec son livre, Le féminisme décolonial, qui, je trouve, est une introduction très intéressante à tout ce qui est afroféministe.
Ouais.
Y a énormément de références et beaucoup de références que je ne connaissais pas.
D'accord.
Elle écrit très bien aussi. C'est vulgarisé, c'est très simplifié, c'est pas des théories abstraites de scientifiques ou de sociologues ou je ne sais quoi. donc voilà, c'était tout pour nous sur cet épisode. On est toujours en quête identitaire, mais là, focus travail.
Ouais.
Donc si vous avez des conseils ou discussions que vous voulez continuer, n'hésitez pas. On compte sur vous pour nous aider.
Ouais, et surtout, franchement, n'hésitez pas à répondre sur les réseaux sociaux, à interagir, à poser d'autres questions. Voilà, on se pose des questions, on n'a pas forcément les réponses. Hein. Donc, ça serait toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager un maximum, à liker et à commenter sur Instagram, Facebook, Twitter.
Et le mail. Et madame, voilà. Attrape ton cœur, voilà. Chez mail.com.
Donc voilà, on fait plein de bisous, portez-vous bien et surtout faites ce qu'il y a de mieux pour vous dans cette période un peu chaotique où vraiment c'est du lâcher prise à fond. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on fait ce qu'il y a de mieux pour nous. Voilà.
Et votre voix, elle compte. Tout ce que vous dites a de l'importance, toutes les émotions que vous ressentez sont importantes. Personne ne doit minimiser vos ressentis et votre vie.
Amen.
Amen. Amine, amine, amine.
Salut.